Radio Fer.
La cafette.
La cafette.
Bonjour à tous. À voir au Théâtre des Os. Dès ce soir, Oncle Vania, d'après Anton Tchekhov, par le théâtre actuel et public de Strasbourg, dans une adaptation et une mise en scène d'Olivier Chaplet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes également le directeur du TAPS, le théâtre actuel et public de Strasbourg. Et puis nous avons aussi en studio avec nous le co-directeur du Théâtre des Os, Nicolas Rossier. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et bienvenue. Bienvenue à Fribourg, Olivier. Tout se passe bien jusque-là? On vous avait prévenu de prendre un bonnet, des gants, des skis?
Non, mais enfin, on avait quand même rejeté un petit coup d'œil à la météo et on s'est équipé. Voilà, maintenant on attend de s'installer dans le théâtre à 15h et de faire la première répétition et de rencontrer ce public à 20h.
Ce soir, effectivement. Alors peut-être qu'on commence juste par un petit rappel, si vous voulez bien, Olivier, du synopsis de la pièce de Tchekhov.
Ça se passe dans une espèce de grosse maison, grosse et vieille maison, qui est un peu une sorte de grosse ferme, de d'envie. Cet oncle Vania avec sa nièce Sonia, une vieille nounou qui s'est occupée de la famille, on peut l'imaginer. Et puis le parrain de Sonia, qui est un homme fauché, qui vit un peu au crochet de la famille en rendant des services. Et quand la pièce commence, on apprend que le papa de Sonia, qui était professeur à l'université dans une ville à côté, est à la retraite hein, et qui décide, parce qu'il n'a pas assez d'argent pour vivre en ville, de venir revivre dans cette maison qui était la maison de son ex-femme, de feu sa femme. Voilà. Et donc il revient avec sa nouvelle femme, qui est une femme très belle, dans cette maison. Et le fait qu'il arrive dans cette maison va créer un orage terrible. Il y a un autre personnage qui est très important, qui est un médecin. Mm-hmm. Tchekhov était médecin lui-même, qui s'appelle Astrov, hein, et qui vit aussi, qui est un copain de d'oncle Vania, qui va et vient, qui passe souvent du temps dans cette maison. Et cet homme, il a une particularité, c'est qu'il est féru d'écologie et qui tient des discours qui sont assez étonnants à entendre aujourd'hui, quand on sait que la pièce a été écrite il y a 130 ans. C'est fou de savoir à quel point Tchekhov est sensibilisé déjà à ces questions d'écologie. C'est incroyable.
Ça, on pourrait y revenir tout à l'heure. Cette pièce a été écrite en 1897 pour
oui,
nous.
Voilà.
97,
oui, 97
pour vous. Ouais. Alors, j'ai lu que c'est une des pièces que vous préférez. Qu'est-ce qui vous parle si fort en cette pièce?
Déjà, elle a les caractéristiques des autres pièces de Tchekhov, c'est-à-dire qu'à partir d'une espèce de peinture du quotidien, il arrive à élever le propos vers l'universel et nous toucher tous autant qu'on est, parce qu'en fait, ces pièces nous parlent très profondément. Peut-être parce qu'il était médecin et qu'il arrivait bien à observer comment fonctionnaient les individus les uns avec les autres, et que par sa peinture très précise des êtres humains, il arrive à nous toucher. Et puis la deuxième chose, c'est que cette pièce, plus que d'autres, porte en elle une forme de comique, forme à laquelle tenait beaucoup Tchekhov, hein, puisqu'il y a vraiment des situations qui sont de l'ordre du théâtre de Vaudeville, dans cette pièce-là particulièrement. Et il se plaignait souvent, Tchekhov, quand Stanislavski mettait en scène ces pièces, d'aller plutôt vers quelque chose qui est aussi dans son écriture, une forme de lourdeur, de tristesse, voire de dépression carrément, puisque à la fin, Vania va quand même se suicider, hein, donc on se suicide pas comme ça juste parce qu'on a une petite idée derrière la tête, mais c'est quand même la traduction d'un mal profond, quoi. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'on peut aller, vers cet univers-là et traiter les pièces de Tchekhov de façon sombre, de façon lente et tout ça.
Et nous,
on a voulu garder les deux jambes, c'est-à-dire garder la jambe comique et garder la jambe aussi plus profonde et plus triste, quoi.
Mm-hmm. Ouais. Alors, sans tout raconter, évidemment, mais qu'est-ce que soulève l'arrivée du père de Sonia avec sa femme? Qu'est-ce que c'est que ce chamboulement?
En fait, depuis très longtemps, Vania et sa nièce Sonia envoient tous les mois de l'argent au père pour qu'il puisse, on suppose, avoir un train de vie assez important en ville, là où sans doute son salaire à l'université ne lui suffit pas. Et puis, quand lui revient donc... outre les histoires d'amour qui étaient en train de dormir et qui se réveillent et qui sont croisés, qui ont des schémas un petit peu en croisement. En fait, le père est un vieil homme un peu aigri, très égocentré et tout ça. Se dit, en fait, j'ai pas assez d'argent pour vivre en ville, alors je vais vendre. Comme je ne me mets pas du tout à la campagne, il s'ennuie en fait. Lui, il aime le fast, il aime les cocktails, il aime qu'on parle de lui, et puis là, personne ne parle de lui. Et donc il décide de vendre la maison, et c'est parce qu'il décide de vendre la maison, il l'annonce, et là ça crée vraiment quelque chose d'extrêmement violent au sein de cette tribu, puisque Vania se révolte, et voilà. J'en dis pas plus. C'est vraiment une dispute quand j'interviens auprès des étudiants de lycée en France pour préparer le spectacle. Je leur dis, vous avez sans doute peut-être assisté des fois à des disputes de famille qui sont soudaines et qui sont violentes et qui vous font froid dans le dos et qui vous mettez à trembler tellement vous dites, mais c'est pas possible. Et que ça arrive. Ben là, ça arrive vraiment. C'est vraiment un ouragan. Et après, ce qui est beau, c'est que, ben, une fois que l'ouragan est passé, l'orage est passé, la vie va essayer de reprendre un cours normal. Mais je dis essayer de prendre un cours normal, mais on sera quand même passé par des choses qui ont été dites qui sont d'une grande violence à entendre, en tout cas. Et la vie pourra essayer de reprendre son cours, mais peut-être pas tout à fait le même cas, quoi.
Alors, c'est une grande histoire de famille. Pourquoi est-ce que cette pièce s'appelle Oncle Vania? C'est quand même lui, à quelque part, tout tourne autour de lui. On a l'impression que Sonia, c'est aussi beaucoup son histoire.
Oui, alors moi, c'est ce que je me suis dit, parce que je me suis dit là... Qui appelle cet homme Oncle Vania? Ben, c'est Sonia.
Oui.
C'est sa nièce. Donc je lui dis, ben, c'est l'histoire de Sonia. Parce qu'en fait, on peut prendre la pièce par plein de bouts. On peut dire, c'est l'histoire d'un vieux professeur à la retraite qui retourne. C'est l'histoire d'une jeune femme qui épouse un vieux professeur. C'est l'histoire d'une nourrice qui a élevé la mère de Sonia. On pourrait raconter l'histoire de plein d'entrées différentes. Et moi, j'ai décidé de la raconter par l'entrée de Sonia, parce que justement, je me suis dit, ben, elle s'appelle Oncle Vania. Il y a une personne qui l'appelle Oncle Vania, c'est Sonia. Donc j'ai pris cette porte d'entrée-là et j'ai décidé d'écrire un prologue qui n'est pas dans l'édition de la pièce, parce que je ne voulais pas me mettre au même rang que Tchekhov. Et un prologue qui, justement, la situe dans la narration et permet aussi au public de se réunir autour de cette histoire.
Voilà. Alors, oui, je veux bien que vous développiez un petit peu tout ce côté de travail que vous avez fait d'adaptation.
Oui.
Parce que moi, j'ai vu un tout petit extrait vidéo. J'ai l'impression que c'est une pièce actuelle. Je vois effectivement un petit bout de monologue de Sonia.
Oui. Ben en fait, elle est très actuelle. Moi, j'ai fait un travail d'adaptation dans la mesure où j'ai enlevé un rôle. J'ai enlevé le rôle de la maman du professeur, donc de la grand-mère de Sonia, qui a 15 ou 20 répliques et qui m'obligeait dans la production à engager une comédienne pour dire 20 répliques. Et donc, ces répliques, je les ai redistribuées à la nourrice et puis à ce parrain Picassiette. Donc, voilà, l'adaptation, elle est là. Après, je suis parti d'une traduction libre de droit sur Internet et j'ai tout réécrit dans une langue d'aujourd'hui. J'avais sur ma table de travail 3 traductions qui sont dans le commerce, qui sont très reconnues, mais auquel je reprochais souvent un peu d'académisme et un peu d'utiliser un peu des tournures. Soit il y avait trop d'envie d'écrire du traducteur et donc on reconnaît un peu trop sa patte. Soit il y avait un peu trop de respect de Tchekhov et donc on ne pouvait pas dire ça parce que c'était Tchekhov. Or, en fait, Tchekhov, il parle... Enfin, les personnages, ils parlent comme nous, on parle. Quoi. C'est-à-dire, quand ils s'engueulent, ils s'engueulent. Voilà. Donc, j'ai voulu donner une forme très, 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 très contemporaine à ce texte. Et puis aussi, j'ai enlevé toutes les références au folklore russe un peu. Alors, il y a certains spectateurs à qui ça manque, mais j'ai enlevé le samovar, j'ai enlevé les caoutchoucs, j'ai enlevé les chevaux, j'ai enlevé tout ça. Les comédiens, ils sont habillés dans des vêtements tout à fait contemporains. Et parce que cette pièce, je trouve qu'elle résonne de façon très actuelle. Et il y a aussi une chose dans l'écriture de Tchekhov, mais ça, j'en suis rendu compte quand j'ai fait ce prologue. Il y a 3 monologues dans la pièce. Je ne sais pas comment ces monologues étaient montés à l'époque en 1897, quand la pièce a été sortie, parce qu'un monologue en théâtre, ça se traite de 1000 manières différentes. On peut avoir le comédien tout seul, qui se parle tout seul, tout ça. Mais moi, j'ai décidé de casser le quatrième mur, que les comédiens, enfin, les personnages, s'adressent directement au public. Donc Sonia, elle inaugure cette forme dès le début du spectacle pour mettre en place la convention. Et ensuite, les 3 monologues, ils sont adressés au public. Et dans le théâtre d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent dans des allers-retours comme ça, entre la confession au public, l'adresse au public, et puis le retour à des scènes dialoguées et tout ça. Et je trouve que ça donne aussi ça une forme de modernité incroyable, mais qui n'est pas inventée par moi, qui était écrite par Tchekhov.
Et puis de suite, ça inclut le public encore plus.
Oui, après, il y a les propos sur l'écologie qui sont incroyables. Moi, quand j'ai monté la pièce, on était un an après les élections européennes, je crois, et il y a un candidat qui présente aussi aux élections présidentielles, qui s'appelle Yannick Jadot, qui avait fait un très bon score aux européennes et qui avait un discours, mais on croit entendre Astrophe, quoi. C'est fou.
Qu'est-ce qu'il dit, Astrophe?
Ben, Astrophe, il dit qu'on est en train de... de bousiller la planète, que les cours d'eau se tarissent, que les forêts sont détruites, que la biodiversité disparaît, que les animaux disparaissent, qu'on est en train de faire disparaître, que le climat se dérègle. Il le dit, le climat se dérègle. Et il y a des gens qui me disent, mais c'est toi qui as écrit tout ça, Olivier. Je dis, mais non, j'ai pas dit tout ça, moi j'ai juste mis des mots d'aujourd'hui, mais si on regarde les traductions plus académiques, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Il y a quelques libertés de ton que je me suis permise, mais elles sont vraiment minimes. Mais en fait, il dit vraiment ça, quoi. Il dit vraiment ça, il y a 130 ans, il dit ça. C'est fou.
Alors, je vais profiter de Nicolas Rossier qui est avec nous, parce que vous avez vu le spectacle, Nicolas, donc je veux bien entendre votre avis sur ce Tchekhov contemporain.
Alors, bon, c'est vrai que qui aime le théâtre ne peut pas connaître Tchekhov. C'est quand même la base de tout le cinéma d'auteur, le théâtre psychologique. Enfin, je veux dire, c'est un monument dans le théâtre. Donc, quand on va voir en tant que programmateur une mise en scène de Tchekhov, on a un peu peur, pour raisonner sur ce que disait Olivier, de tomber un peu sur une pièce de musée. Parce que ça appelle un peu à ça. On place Tchekhov dans son époque, avec des discours qui, effectivement, peuvent résonner, mais il faut aller les chercher sous les traductions. Et je trouve que cette mise en scène a deux grandes vertus, non seulement de restituer la tempête qui se passe, la tempête émotionnelle qui se passe à l'intérieur des personnages, mais également de nous la rendre accessible par le biais d'une langue actuelle et d'une mise en scène actuelle. Et c'est ce qui nous a beaucoup plu à Geneviève et à moi, et c'est ce qui fait que on est très, très fiers et très contents d'accueillir ce Vania-là.
Mmh. Olivier Chaplet, dans les notes que j'ai lues sur Tchekhov, on dit qu'il était un Chopin du théâtre, rapport à la musicalité de ce qu'il écrivait, des silences et des rythmes, etc. Alors, quand on traduit une pièce, comment est-ce qu'on gère ça?
Alors, je ne saurais pas répondre à votre question, parce que je ne suis pas assez féru, mais vous parlez de Chopin, mais en fait, tout l'univers musical est basé sur Chopin, dans la pièce.
D'accord.
Mais je ne suis pas assez féru en musicologie pour répondre à votre question, mais je peux juste vous dire que j'ai travaillé beaucoup l'oralité. C'est-à-dire, j'ai beaucoup parlé en adaptant, pour voir comment ça sonnait. J'ai beaucoup lu à haute voix, comme font les comédiens, en fait. Hein, parce que l'oralité fait partie du théâtre, et c'est justement la différence entre le livre et le théâtre, en fait. C'est, voilà. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Mais les silences, ils font partie de l'écriture. Et ils sont... On avait vu une mise en scène d'un metteur en scène parisien qui a monté pratiquement toutes les grandes pièces de Tchekhov il y a 3-4 ans, et qui a fait une très belle tournée. Mais c'était comme des italiennes, c'est-à-dire en fait, Oncle Vania durait 1 heure ou 1h10, et les comédiens, ils parlaient à une vitesse incroyable. Et moi, je trouvais que ça abolissait toute la profondeur, justement, de ces regards et de ces silences et de cette profondeur pour laisser que la surface des choses. Alors évidemment, comme c'était nouveau, tout le monde disait, ah, mais c'est génial. Moi, je trouvais ça complètement surfait, snob et sans aucun intérêt. Mais bon, voilà, je dois être complètement démodé.
Je sais pas. Vous voulez dire un mot de la scénographie? C'est très sombre.
Ouais, la scénographie, moi, j'ai toujours aimé la sobriété, pour que le spectateur puisse se représenter des paysages lui-même et faire marcher son imaginaire. Après, il y a aussi une question de budget. C'est-à-dire, on n'avait pas non plus l'argent pour faire un décor très réaliste avec la maison. La première scène se passe en extérieur et puis les trois autres dans des pièces différentes. Avec la scénographe avec qui je travaille depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, Emmanuel Bischoff, on travaille surtout sur des scénographies qui sont assez épurées et qui sont assez évolutives. En tout cas, dans ce spectacle-là, elle est évolutive. Au début, on est dehors, donc c'est un dispositif tout plat, voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a le prologue de Sonia, parce que Sonia, elle dit où ça se passe. Et c'était important pour moi que les spectateurs qui ne connaissent pas forcément le théâtre ni cette pièce sachent à quoi on les invite. Donc dans son monologue, enfin dans son prologue, elle dit on est dehors sous un peuplier, voilà, c'est l'été, on entend. Bon. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure que les actes avancent, cet espace réduit et devient plus des espaces d'intérieur, avec des panneaux qui étaient à plat sur lesquels marchaient les comédiens, qui se soulèvent et qui deviennent des murs. Mmh. Et qui, au fur et à mesure que la pièce avance, réduisent l'espace de plus en plus, comme si aussi le champ des possibles de ces personnages, au début de la pièce, finalement, ça se resserrait complètement, et qu'à la fin, il ne reste plus beaucoup d'issues. Voilà. Après, il y a aussi une dernière chose, je ne sais pas si j'ai le temps de
le dire.
Oui,
vous avez le temps de le dire.
Et dans la pièce, il y a un piano qui est à l'acte 2. On voit à l'acte 2 un piano dans une des pièces, et je me suis demandé à qui était ce piano, en fait, et j'ai répondu à la question de la façon suivante. Je me suis dit, ce piano, c'était le piano de la mère qui est morte il y a 10 ans. Et j'ai voulu que cette présence soit toujours là. Mmh. Et donc ce piano, de façon onirique, il est là dans toutes les scènes. Donc en fait, il est là dehors, il est là dans la chambre, il est là dans le salon, il est là dans la salle à manger ou dans le bureau. Et alors c'est complètement irréaliste, puisque un piano, normalement, c'est dans une pièce et pas dans une autre. Et c'est surtout pas dehors, sauf chez les gens très riches qui mettent des Steinway sur leur terrasse. Mais c'était pas le cas à l'époque. Et donc c'est un peu l'évocation de la, c'est un peu l'évocation de la présence de la mère. Et le son, soit part du piano, soit revient au piano à la fin de chaque transition. Les transitions sont effectuées par les comédiens qui changent eux-mêmes le décor. Et les comédiens sont aussi assis à la lisière du décor. Et j'aime beaucoup ça parce que je trouve que le théâtre, c'est un art de convention. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on sait que c'est faux, mais on croit que c'est vrai.
Oui.
Et donc, voir les comédiens assis qui boivent de l'eau ou qui enfilent discrètement leur costume, leur gilet ou changent de chaussures pour rentrer dans l'acte suivant, que le public peut voir, distinguer un petit peu. Tout à coup, ils changent de statut en montant sur le plateau et en devenant des personnages. Et j'aime beaucoup cette chose de miracle.
Tant qu'on y croit, c'est magique.
Donc, le plus qu'on peut. Ouais. On reste quand même des grands enfants.
C'est vrai. Cette pièce, vous l'avez montée en 2019. Vous avez pu la jouer un petit peu avant le Covid ?
Ben, on a eu de la chance parce qu'on a raté juste une date.
D'accord.
On avait une tournée d'une vingtaine de dates à la création et on n'en a raté qu'une. Ensuite, on a essayé de la reprendre. Enfin, on a voulu la reprendre la saison d'après, mais pareil, il y a eu le Covid. Et puis, quand on l'a repris cette saison-ci, donc on est en 2022, donc on l'a repris à Strasbourg, et on a dû annuler 3 représentations parce qu'il y a un des comédiens qui a été testé positif au Covid. Donc, on était tous qu'à contact. Donc, il fallait qu'on joue avec des masques, il fallait que moi je joue à Strophe. Je me suis dit, c'est juste complètement dénaturé le spectacle. Voilà. Et il y a eu la petite surprise aussi, ça c'est pour le clin d'œil, qu'après ces annulations, la semaine d'après, on jouait dans le sud de l'Alsace, à Ilzac, et que 3 jours avant, le comédien qui joue Serebriakov, le professeur, donc le papa de Sonia, me téléphone pour me dire, Olivier, j'ai une mauvaise nouvelle, je suis positif au Covid. Et donc, moi, j'ai appelé le directeur, je lui ai dit, est-ce que si je remplace François Smol, est-ce que tu acceptes qu'on joue le spectacle? Il m'a dit, oh, bah, super, viens jouer. Donc, pendant tout le week-end, j'ai appris le texte, parce que je le connaissais, parce que je l'ai écrit, oui. Et puis j'ai dirigé la mise en scène. Oui. Donc, mais j'étais pas forcément capable de démarrer les phrases. Je suis capable de les terminer, ou quand il manque un mot, je le dis sans regarder le texte. C'est des automatismes, tellement je l'ai vu, tellement je l'ai lu. Mais de là à dire le texte, à trouver la bonne syntaxe et tout ça, c'était une autre paire de manches. Mais finalement, j'ai pas mis les pieds sur un plateau depuis 20 ans et j'ai pris du plaisir à le faire et les comédiens ont été vraiment très sympas. Ils m'ont accompagné et j'ai joué le père de ma fille.
Parce que c'est ma fille qui joue Sonia.
Voilà. Et donc, j'ai vraiment joué le rôle du père de ma fille. Ça ne m'était jamais arrivé.
La vie, c'est drôle de surprise.
Quand elle m'a dit,
papa,
sois gentil, j'ai failli rire, en fait.
Voilà. La vie fait de drôles de surprises.
Oui, mais c'est beau, la vie.
C'est vraiment joli. Je voudrais juste terminer avec une petite phrase que j'ai vue passer hier sur les réseaux sociaux et qui m'a touchée. C'est visiblement une affiche qu'on voit dans les rues de Moscou qui dit « Vous ne jouez plus Tchekhov en Europe et nous continuons à jouer Shakespeare. On ne touche pas à la culture. » Évidemment, je ne peux pas ne pas relever que vous jouez un auteur russe alors que politise la culture, le sport, etc. Je voulais juste avoir votre avis sur ces questions.
Moi, je pense que Tchekhov doit se retourner dans sa tombe. Ce brave homme qui est mort si prématurément, qui est ukrainien, hein, parce qu'il est né dans l'actuelle Ukraine, hein, c'était l'Empire russe, mais c'était l'Ukraine. Je pense que les grandes œuvres n'appartiennent pas à des nations, ils appartiennent à l'humanité. Et donc à partir de là, Tchekhov fait partie de nous. Et comme disait Nicolas, pour moi, c'est le plus grand auteur du XXe siècle. Pourtant, il est mort au tout début du siècle. Il est mort en 1904, mais il c'est le plus grand auteur. Et il appartient plus à la Russie. Il appartient, il nous appartient à tous.
Au patrimoine mondial.
Voilà, culturel. Au patrimoine mondial, oui.
Merci pour ces mots-là. Je vais donner tout à l'heure les dates de représentation, donc le Vania, juste avant Nicolas Rossier. Peut-être aussi juste signaler qu'il y a un échange qui se fait, une collaboration, parce que vous allez partir avec une pièce créée au Théâtre des Os, jouée en Alsace.
Effectivement, on va retourner pour la deuxième fois dans le Théâtre d'Olivier, au TAPS de Strasbourg, avec Anne Frank, cette fois-ci, où on va presque, quasiment terminer notre grande exploitation. On ne sait pas à combien on va arriver, à peu près 140, 145 représentations. Et il y en aura encore une en Suisse à Morges après, mais avant ça, on va donc jouer une semaine à Strasbourg, on serait joué beaucoup.
Très bien, ça sera pour fin avril. Alors, les dates, mes amis, ça commence ce soir à 20h, on joue demain soir à 20h, dimanche à 17h, et puis ensuite du 7 au 10 avril. Vous trouvez évidemment les informations sur théâtreos.ch. Samedi 9 avril, il y aura un bord de scène avec les comédiens, et j'imagine bien Olivier Chapelet aussi. Et puis, pour les parents, dimanche 3 avril, la halte garderie. Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose?
Je crois pas.
Tout bon?
J'espère que je suis passée. Halte garderie gratuite, peut-être.
Et ben voilà, ça c'est dit. Olivier Chapelet, un grand merci, vous êtes levé pour nous ce matin.
Merci à vous,
d'être venu nous
voir. Un plaisir avant tout.
Super, et puis rendez-vous au Théâtre des Os pour ce Tchekhov, Oncle Vania, à partir de ce soir. Belle journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Radio FR. La Cafette. La Cafette.